Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Ça fait plaisir de vous voir en entier. Vous n'avez pas changé depuis, hein? Alors nous allons lire d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, le verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Nous allons au chapitre 4 et à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyante ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. » Seigneur, encore une fois, nous voulons simplement te demander de nous guider dans la méditation de ta parole, afin que ces quelques instants passés avec mes frères et sœurs, en plongeant nos regards dans ta parole, sois bénéfique pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie de graver en nous ta pensée et en même temps de nous délivrer de tout ce qui en nous-mêmes peut faire obstacle, résistance à l'action de ton esprit, afin que nous soyons comme des instruments habiles entre tes mains et que rien ne t'empêche d'agir et de faire tout ce que tu as prévu d'accomplir, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. À première vue, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous découvrons l'histoire de Moïse dans la Bible, nous pourrions dire qu'il a une personnalité qui est pleine de contradictions. Je voudrais m'expliquer après avoir dit cela. Effectivement, dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, nous le rencontrons pour la première fois à l'âge adulte et il résulte d'un certain contact qu'il a eu avec un Égyptien que la violence de cet homme s'est manifestée. Il y a eu la manifestation de la colère en voyant qu'un Égyptien s'en prenait à un de ses frères hébreux et la Bible nous dit qu'il a tué cet homme. Après avoir pris soin d'ailleurs de regarder tout autour de lui pour savoir si personne ne l'observait et il n'a pas tenu compte d'un fait, c'est que Dieu, lui, voyait ce qu'il était en train d'accomplir. Donc, le premier contact avec Moïse, adulte, c'est le contact avec un homme qui a une certaine violence. Et puis, paradoxalement, nous découvrons dans l'Écriture, notamment dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 3, la chose suivante. Il est dit, Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et une autre traduction dit, il était humble et doux, plus que n'importe quel autre homme sur la surface de la terre. Vous en conviendrez, frères et sœurs, il y a quelque chose de choquant, n'est-ce pas? Quand on découvre, d'une part, le geste qu'il a accompli, et que d'autre part, Dieu rend ce témoignage de lui-même. Mais nous savons tous qu'entre ces deux faits, il y a eu une école dans laquelle Moïse est passé et où il a été changé, où il a été transformé. Mais je voudrais simplement mettre en relief ce soir que lorsque Dieu nous appelle pour assumer une certaine responsabilité, et quelque part, chacun d'entre nous est appelé par le Seigneur à remplir une fonction au sein de son Église. La Bible dit que nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Et quand nous prenons conscience du fait que Dieu nous appelle à assumer des responsabilités, notamment et surtout sur le plan spirituel, alors va paraître à l'intérieur de nous-mêmes, je dirais dans le fond de notre cœur, une sorte de crainte, et cette crainte-là va se manifester par une humiliation qui nous pousse à dire, en ce qui nous concerne, que nous sommes des incompétents. Et, à vrai dire, nous sommes par nature des incompétents. Cependant, il y a quelque chose que Dieu voudrait que nous comprenions. L'humiliation qui nous fait dire à notre sujet que nous sommes des incapables, que nous sommes des incompétents, cette humiliation-là n'est pas la véritable humilité. La véritable humilité, c'est de dépendre de Dieu. Quand nous sommes humiliés, nous nous méprisons nous-mêmes. Mais quand nous sommes humbles, nous savons ce que nous sommes par nature, mais nous allons nous appuyer sur Dieu, nous allons dépendre de lui. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons dans l'épître de Jacques cette déclaration « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et la parole de Dieu continue. Et il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire donc que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un dessein qu'il veut accomplir au travers de chacun d'entre nous. Et pour qu'il puisse l'accomplir, il faut que nous arrivions à être complètement dépendant de lui. Vous savez, ce n'est pas le premier homme, Moïse, à dire, quand Dieu l'appelle à le servir, que il préférerait que ce soit quelqu'un d'autre que Dieu envoie. Et il dit clairement, eh bien, je ne suis pas capable, prends quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, Dieu va répondre à son désir en prenant aussi Aaron, son frère. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Nous savons quelles ont été les conséquences parce que son frère n'a pas toujours été un canal de bénédiction, mais il a été aussi un obstacle, surtout le jour où il a cédé au peuple et il a construit ce fameux veau d'or qui a conduit le peuple de Dieu dans la voie de l'idolâtrie. Mais quand on considère le témoignage rendu par certains autres personnages, on réalise qu'effectivement, la première réaction a toujours été, pour ceux que Dieu appelle vraiment, d'avoir ce sentiment où ils n'étaient pas capables de faire ce que Dieu leur demandait de faire. Par exemple, nous nous rappelons ensemble l'appel de Gédéon. Et quand Dieu s'est adressé à Gédéon en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », vous savez comment ce garçon a répondu. Et il a dit « Mais je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu en Israël. » Cela voulait dire « Je suis un incapable, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Cependant, voyez-vous, là, c'est d'abord une humiliation qui est peut-être même parfois, malgré les apparences, eh bien, la manifestation d'un orgueil intérieur, tandis que lorsque l'on cède à Dieu, et puis que finalement, on dit « Ah, mais je ne vais pas m'appuyer sur ce que je vaux, puisque je suis conscient que je ne vaux rien, mais je vais m'appuyer sur Dieu », cette confiance-là, elle honore Dieu, et Dieu est alors capable de faire des choses extraordinaires. Je prends un autre exemple. Dieu appelle Isaïe au travers d'une vision sublime qui est décrite dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 6. Et lorsque Dieu se révèle à Isaïe, quelle est la réaction de ce dernier ? Il dit « Ah Seigneur, malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures. » Et vous voyez, lui aussi, il se méprisait lui-même, il réalisait là où il en était quant à sa propre nature. Il ne niait pas l'évidence et il a fallu bien sûr qu'il se confie en Dieu pour qu'il puisse accomplir le ministère auquel Dieu l'appelait. Je prends un autre témoignage. Jérémie, auquel Dieu s'adresse alors qu'il est encore un jeune enfant, peut-être un adolescent, et il lui dit simplement ceci, au moment où il comprend que Dieu l'appelle, il dit « Ah, mais Seigneur, je suis trop jeune pour faire ce à quoi tu m'appelles. » Et Dieu va lui dire « Ne dis pas ça, parce que finalement, l'autorité qu'il allait devoir exercer, ce n'était pas celle de l'homme en question, c'était celle de Dieu dont il voulait le revêtir. » Et nous voyons ainsi, au travers de toute l'Écriture, que finalement, la chose que nous avons besoin de comprendre, de saisir, pour être utile entre les mains de Dieu, c'est de dépendre de lui. Vous savez, si Moïse était resté tranquillement à Madian, après la mère expérience que j'ai décrite, car il a dû prendre la fuite de l'Égypte après le meurtre qu'il avait commis, il arrive à Madian, il trouve une épouse, il trouve sa belle famille, et il gardait le troupeau de son beau-père. Pour faire cela, eh bien, il ne se serait certainement pas senti incapable de réaliser cela. Cela lui convenait très bien. Et je vais vous dire, même s'il était resté en Égypte, eh bien, cet homme qui avait reçu l'instruction des Égyptiens, qui avait reçu une grande connaissance, il aurait pu, à cause de toute l'éducation qui lui avait été accordée, eh bien, sentir que finalement il était capable pour exercer une tâche semblable et devenir le bras droit à son tour de Pharaon. Après tout, il avait une instruction beaucoup plus grande et il avait des capacités au départ, humainement parlant, beaucoup plus grandes que Joseph, qui lui-même avait été le bras droit de Pharaon et qui pourtant avait été tiré d'où ? De derrière le troupeau des brebis qu'il gardait aussi. Et malgré le fait que ce soit un humble paysan, je mets ceci entre guillemets, eh bien Dieu l'a tellement élevé qu'il est devenu le bras droit de Pharaon. Et l'on voit là comment Dieu est capable de faire des choses extraordinaires quand on prend conscience que on ne s'appuie pas sur ses capacités personnelles, sur sa force personnelle, mais qu'on s'appuie sur le Dieu puissant, le Dieu qui ne change pas. C'est la raison pour laquelle il a fallu qu'une révélation de ce Dieu soit accordée à Moïse. Et nous tous qui sommes ici, nous savons comment cette révélation lui a été faite, en particulier, vous vous souvenez, quand il était encore dans le désert et que, s'approchant d'une certaine colline, à un moment donné, il a vu un buisson en flammes qui ne se consumait pas. Et là, c'était la première révélation de Dieu, car de ce buisson, une voix est sortie et l'appel a retenti pour Moïse. Mais que signifie donc ce buisson en flammes qu'il ne se consumait pas ? Eh bien, dans un premier temps, et j'aimerais bien pouvoir expliquer cela afin que ce soit évident pour chacun d'entre nous. Vous voyez, le feu qui est Dieu, et dont la Bible par ailleurs nous dit un feu dévorant, là ne consume pas le buisson. Parce qu'il est en train de dire Dieu, le feu n'est pas alimenté par le bois, par ce qui est matériel. Parce que si ce feu avait dû être alimenté par le buisson lui-même, enflammé par je ne sais quoi, eh bien, il se serait vite éteint, parce que ça ne dure qu'un instant. Un morceau de bois, un buisson, n'est pas permanent. Mais là, le feu continuait à brûler, et le buisson lui restait intact. Ça voulait dire, je ne dépends de personne, je suis de toute éternité. C'est une révélation extraordinaire que Moïse a, la révélation d'un Dieu grand qui est, et c'est la raison pour laquelle, quand il lui a demandé son nom plus tard, ce Dieu a répondu, je suis celui qui suis, c'est-à-dire il est par lui-même. Ne dépendant absolument de personne, ni de qui que ce soit. Mais ce Dieu qui est par lui-même, grand, puissant, extraordinaire, il veut aussi nous utiliser les uns et les autres, malgré notre faiblesse. En nous communiquant quoi ? Son feu. En nous communiquant le secours et la puissance de son esprit pour réaliser ce qu'il a décidé de faire au travers de chacun d'entre nous. Première révélation, un Dieu qui est de toute éternité. Mais une voix s'est fait entendre. Et cette voix qui s'est fait entendre a demandé à Moïse d'enlever les souliers de ses pieds, les sandales de ses pieds. C'est-à-dire tout ce qui est en contact avec le sol, parce qu'il est dit, parce que ce lieu est un lieu saint. Et Dieu se révèle ici comme étant le Dieu pur, le Dieu saint. C'est une chose que nous avons besoin de comprendre, que nous avons besoin de réaliser. Dieu de toute éternité, Dieu saint, Dieu pur, Dieu qui ne peut pas voir le péché, mais Dieu qui peut nous préserver malgré ce que nous sommes, au sein d'un monde qui est corrompu et souillé, mais qui nous demande aussi de nous séparer de tout ce qui nous relie à ce monde, de tout ce qui nous relie à la terre et qui a tendance à souiller notre cœur et notre être intérieur. Et troisième chose, après lui avoir dit cela, il ajoute « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est-à-dire le Dieu de ses pères. Écoutez mes frères et sœurs, il y a là une révélation qui est formidable. Parce que le Dieu que nous servons, vous et moi, n'est pas une idole, ce n'est pas un petit Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a été servi par ceux qui nous ont précédés et que l'on appelle les apôtres. Et avant les apôtres, tous les prophètes. Et avant les prophètes, les patriarches qui viennent d'être cités par Dieu lui-même, Abraham, Isaac et Jacob. Et nous connaissons l'histoire de Dieu au travers de la vie de tous ces hommes-là. Et nous connaissons ce qu'il a pu accomplir, ce qu'il a pu réaliser au travers d'eux. Ce Dieu ne change pas. Il est notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, dans ce moment de prière, nous avons ainsi intérêt à demander à Dieu, mais puisque tu ne changes pas, puisque tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, puisque aussi tu es le Dieu de Pierre, de Paul, de Jean et de Jacques, et qu'au travers d'eux, tu as fait de si grandes choses, puisque tu nous dis aussi au travers de ta parole que tous ces hommes étaient de la même nature que nous, alors nous te prions, Seigneur, de te manifester aussi au travers de nous. Et nous en avons besoin. Dans ce siècle où tout va si mal, où tout autour de nous n'est que corruption, nous avons vraiment besoin du secours de Dieu. Mais je me suis posé la question, d'où lui venait à Moïse, au départ, ce sentiment d'incompétence? Eh bien, je crois que c'est précisément, comme je l'ai déjà dit, à cause de ce mouvement de colère qu'il avait eu. Et peut-être n'arrivait-il pas, n'est-ce pas, à franchir le cap et de se dire, ce Dieu-là, eh bien, il me connaît et il est capable aussi de pardonner ses actions. Et je voudrais m'engager dans une voie un peu particulière. Vous savez, on a tellement entendu parler de la colère comme étant quelque chose de foncièrement mauvais. C'est ce que vous pensez dans le fond de votre cœur. Pour la plupart d'entre vous, vous dites, mais oui, la colère c'est mauvais. Mais quand je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que la colère c'est un sentiment que Dieu a mis en nous, une émotion que Dieu a mis en nous. Mais c'est vrai que la colère, elle est justement comme une médaille qui a deux faces. Et c'est surprenant de découvrir que même quand la Bible, d'une certaine manière, semble condamner les mouvements de colère, et nous allons le voir parce que c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Par ailleurs, il est dit que Dieu se met en colère. Et j'ai même lu un verset dans un psaume où il est dit ceci, on peut se mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Alors, comment se mettre en colère et ne pas pécher ? Comment avoir une telle impulsion et en même temps ne pas tomber dans les pièges que le diable place devant nous? Vous savez, je vais parler de la colère de la manière suivante. C'est un petit peu comme l'eau. L'eau, elle désaltère, elle est bonne à boire, elle nous rafraîchit, elle nous lave, mais elle peut nous noyer. Vous êtes d'accord avec moi? Le feu, il nous réchauffe et il est agréable pour, ne serait-ce que pour réchauffer la nourriture que nous prenons quotidiennement, mais il nous brûle. Il y a les deux aspects. Or, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Et il montre comment on doit ne pas pécher tout en nous mettant en colère. Il dit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Parce que lorsque on reste dans un état de colère, celle-ci se transforme en amertume. Et l'amertume paralyse notre vie spirituelle. Et nous ne pouvons pas faire des progrès. Mais comment se mettre en colère sans pécher, encore une fois? Parce que la Bible me dit que même Jésus s'est mis en colère. Est-ce que vous l'avez lu, cela? Quand on voit dans l'évangile de Matthieu, je crois, au chapitre 21, son intervention, il arrive dans le temple, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les changeurs de monnaie, le trafic commercial dans le temple, il voit les vendeurs de pigeons, il fait un fouet, il est dit même qu'il a fait un fouet avec des cordes, il a bien donc pris le temps, n'est-ce pas? Il a dû bien réfléchir, il a fait ce fouet lui-même et il a chassé les vendeurs de pigeons, renversé les tables des changeurs de monnaie. Ça doit être un spectacle assez bouleversant. Et que dit la Bible au sujet de Jésus? Il est doux et humble de cœur. Et le voilà à l'œuvre. Alors, j'ai réfléchi un instant. Quand est-ce que moi je me mets en colère? Je me mets en colère quand mon orgueil est touché. Je me mets en colère quand quelque chose qui est en moi, eh bien, est bousculé par une intervention, quelle qu'elle soit. Ou alors, quand le cadre dans lequel je me trouve, la situation dans laquelle je me trouve, les éléments dans lesquels je me trouve sont bousculés par certains événements. Alors, moi, je me mets en colère, mais c'est moi, ça réagit. Jésus, quand est-ce qu'il se met en colère? Il se met en colère quand il voit le péché. Il se met en colère quand le plan de Dieu est contrecarré par le comportement des hommes. Il se met en colère quand les hommes font obstacle à l'action de Dieu pour venir au secours d'un être dans la souffrance. Par exemple, nous avons dans l'évangile de Marc, je crois que c'est au chapitre 3, le récit de cet homme qui se trouve dans la synagogue. Il a un problème, son bras est sec, sa main est sèche, il ne peut pas bouger son bras et il observe Jésus, le comportement de ceux qui l'entourent. Parce que voyez-vous, même quand on ne parle pas, Dieu entend les paroles qui sont dans notre cœur, dans le secret de notre cœur. Et il a vu que ces gens-là l'observaient pour savoir si le jour du sabbat, il interviendrait pour guérir cet homme. Et la Bible me dit, l'évangéliste rapporte le fait, indigné. Quand on est indigné, ça veut dire qu'on est en colère. Indigné. Il a posé une question. Et il a dit, lequel d'entre vous, le jour du sabbat, s'il a son âne, son bœuf ou un membre de sa famille qui tombe dans un puits, n'ira le rechercher? Et il reste la bouche fermée. Alors toujours tout autant indignés à cause de leur comportement, parce que c'est une attitude qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est toujours la gloire de Dieu qui est en cause. Et Jésus alors intervient et il se met en colère. Alors je vais vous dire, même si cela est très étrange de la part d'un pasteur, mettez-vous en colère mes frères et sœurs. Mais mettez-vous en colère contre quoi? Contre le mal. Mettez-vous en colère contre le péché. Mettez-vous en colère contre l'iniquité. Mettez-vous en colère contre l'injustice. Mettez-vous en colère contre tout ce qui n'est obstacle à ce plan de Dieu et au dessein de Dieu. Mais épargnons, s'il vous plaît, les personnages en gardant une amertume dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Paul a raison de dire, mettez-vous en colère, oui, mais mettez-vous vite en contact avec Dieu, pour que, en contact avec Dieu, votre cœur soit rempli d'amour, et amour de Dieu dont nous avons besoin afin de triompher de toute forme d'amertume et de pouvoir continuer à faire la volonté de Dieu, à accomplir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et Moïse, eh bien, il a dû passer par cette égole. C'était certainement très difficile et il a dû affronter un tas de choses qui ont façonné son caractère. Dieu a utilisé ces choses-là pour pouvoir le rendre conforme à ce que Dieu voulait qu'il soit. Et à un moment donné, alors, je découvre ceci, c'est Dieu qui lui fait une proposition. Vous savez que le peuple même d'Israël a été très dur avec Moïse, et chaque fois qu'il y avait un petit problème, ils ont pensé, eh bien, que c'était sa faute. Et quand ils se trouvaient devant un obstacle, ils sont allés trouver Moïse. Et ça a commencé, je dirais, dès le départ de cette réalisation de son appel. Quand il est allé trouver les enfants d'Israël pour leur dire ce que Dieu lui avait dit, tous étaient d'accord. Et ils ont dit, c'est bien. C'est le plan de Dieu, nous sommes prêts à te suivre. Mais il a fallu affronter Pharaon. Et quand Moïse a affronté Pharaon, écoutez ce qui suit. Au lieu que ça aille dans le sens voulu, c'est-à-dire pour que son autorité soit mieux établie sur le peuple d'Israël, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il a permis cette sorte de résistance de la part de Pharaon, à tel point même que le travail pénible dont les enfants d'Israël étaient tenus d'accomplir a été multiplié de telle sorte que les contremaîtres de ce peuple hébreu sont venus trouver Moïse et lui ont dit, ben voilà le résultat, tu es allé trouver Pharaon, tu devais être notre libérateur. Maintenant, la conséquence, c'est que nous sommes dans une situation pire qu'au préalable. Ben, vous savez, il a dû ressentir une grande douleur dans le fond de son cœur. C'était comme autant de coups de ciseaux du divin sculpteur pour l'amener à être patient et s'attendre à Dieu, parce que des fois, les apparences sont trompeuses. Et Dieu, lui, n'oublie jamais ce qu'il a dit. Et ce que sa bouche a dit, nous connaissons très bien ce verset, sa main l'accomplit. Et évidemment, il y a eu ce travail opéré dans son cœur. Et puis même à un moment donné, eh bien, il semble que c'est Dieu, je dis il semble que c'est Dieu qui se soit fatigué de ce peuple. Et vous savez comment il a parlé à Moïse ? Exode, chapitre 32, verset 10, vous le chercherez à la maison. Il lui dit, Moïse, je suis prêt à faire de toi une grande nation. Mais ce peuple-là, je ne marche pas avec lui. Je ne veux pas aller avec lui. Qu'il aille avec toi, mais moi, je ne monterai pas avec lui. Mais la promesse de Dieu, c'est, je suis prêt à faire de toi une grande nation. Écoutez, quand Dieu parle comme ça à quelqu'un, il y a vraiment de quoi éclater de joie. Et de dire, eh bien, avec toute la souffrance, n'est-ce pas, qu'il avait endurée à cause de toutes ces contradictions, il aurait pu dire, oh ben, maintenant Dieu est avec moi, il dit qu'il va faire de moi un grand peuple. C'était une promesse analogue à celle que Dieu avait faite à Abraham. Il aurait pu, évidemment, éclater de joie, se réjouir. Et vous savez ce qu'il a fait? Moïse a prouvé qu'il avait été à l'école de Dieu, très attentif. Et là, il a dit, ah non, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas y aller. Et il a refusé ce que Dieu lui proposait. Mais par contre, il a demandé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Mes frères et sœurs, c'est peut-être la prière que nous pourrions faire monter vers le Seigneur aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire. Et la gloire, ben, il a vu partiellement, parce que, comme la Bible le déclare, personne ne peut voir Dieu face à face et continuer à vivre encore. Alors, Dieu lui a fait voir sa gloire, mais d'une façon extraordinaire, parce que c'est juste à ce moment-là que Dieu l'a appelé à remonter sur la montagne. Parce qu'entre-temps, vous savez ce qui s'était passé? Moïse s'était encore mis en colère. Quand en descendant de la montagne où il avait reçu les premières tables de la loi, il a entendu et vu le peuple faire les choses horribles qu'il était en train de commettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables de la loi. Moi, ça me fait du bien de savoir que Moïse était coléreux, parce que je le suis aussi. Alors je me dis, eh bien, ma foi, si Dieu a été miséricordieux avec Moïse, il va l'être avec moi aussi. Et vous, mes frères et sœurs? Mais vous êtes tellement gentils, vous. Tellement gentils. Mais regardez, il a remonté là-haut et Dieu a écrit de nouveau, il y a eu les tables de la loi. Dieu lui a redonné cela. Mais ce n'est pas ça le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est qu'en redescendant de la montagne, il ne s'était pas rendu compte lui-même. Son visage rayonnait. Et le peuple a vu son visage qui rayonnait de la gloire de Dieu, de telle sorte qu'il a fallu après qu'il couvre son visage pour que le peuple ne voit pas disparaître cette gloire, parce qu'il savait bien que ça ne pouvait pas être permanent. Mais quand même, quelque chose d'extraordinaire. Il a connu par anticipation ce que Jésus a connu sur le mont de la Transfiguration. Quand d'un seul coup, celui que tout le monde considérait comme un simple homme est devenu éclatant de lumière, et ses vêtements eux-mêmes, eh bien, sont devenus plus blancs, mais d'une telle blancheur qu'aucun foulon, nous dit l'Écriture, ne pouvait rendre un éclat semblable à un vêtement. Cela, c'était formidable pour le Fils de Dieu. En fait, tous ont pu voir qui était vraiment celui qui était derrière cette enveloppe tellement humble. Car au milieu des hommes, Jésus apparut comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer les regards, il n'avait aucun éclat. Mais là, les trois hommes qui sont montés avec lui, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient sur la montagne, ont vu la gloire de Dieu. Eh bien, c'est cette expérience qu'a connue dans le fond Moïse. Il a refusé quelque chose qui pouvait être pour lui quelque chose d'extraordinaire ici-bas sur la terre, mais à tout ce qu'il pouvait avoir ou recevoir, il a préféré contempler la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est merveilleux, mais cette tendance s'est toujours trouvée chez lui. La preuve, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que Moïse a pris les décisions que nous savons. C'est-à-dire, il a refusé la sensualité qui était dans la cour des pharaons de cette époque. Il a refusé le plaisir du péché. C'est ainsi que la parole de Dieu parle. Et il a choisi l'opprobre du peuple de Dieu, la souffrance avec son peuple. Il a fait le choix qui était convenable et Dieu a fait de lui cet homme remarquable que nous connaissons. Et en même temps, quel encouragement pour nous tous. Au travers de tout cela, nous voyons, oui, Moïse, pour aussi beau qu'il soit, je parle sur le plan spirituel, eh bien, c'est un homme de la même nature que nous. Alors, tenons-nous devant le Seigneur et demandons-lui, Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré notre incapacité naturelle, malgré ce que nous sommes les uns et les autres, malgré nos défauts, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Parce que quand cette gloire va se manifester, alors les autres, dehors, ne verront plus nous, mais Christ en nous. Que Dieu nous aide.